L'actualité francophone en Suisse, une campagne de votation est lancée. Sujet sensible, la naturalisation facilitée pour la troisième génération. En Belgique, l'amiante s'invite au cœur d'un nouveau procès. Actualité judiciaire également avec l'ouverture à Paris du premier procès, celui du président, du fils du président de Guinée équatoriale. Et nous verrons qu'au Canada, cela ne s'arrange pas côté météo. Mais on commence bien sûr par nos portraits de la semaine. Une semaine très sportive, nous allons l'entendre. Mais tout d'abord, Dominique Arnoldi, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le Canada qui est à l'honneur.
Oui, le Canada qui serait la destination numéro un a privilégié des touristes en 2017. Ça, c'est selon le quotidien américain, le New York Times, qui décline les charmes de notre pays, le dynamisme de ses villes cosmopolites, ses merveilles de la nature, encore presque vierges, et on évoque également la politesse des Canadiens. Le Canada se hisse au haut du palmarès, notamment parce que de nombreuses célébrations auront lieu cette année aux quatre coins du pays, à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération, dont l'accès gratuit aux parcs nationaux.
Beaucoup de sport, je vous le disais dans nos portraits de la semaine. En Belgique, Nathalie De Vic, c'est un footballeur qui fait couler beaucoup d'encre.
Axel Witsel, un des grands talents des Diables Rouges, notre équipe nationale approchée par la Juventus où il était prêt à signer avant de lui préférer une équipe nettement moins prestigieuse mais ô combien plus généreuse, Tianjin, club chinois plutôt moyen mais qui lui offre 5 fois plus que son club actuel, le Zénith Saint-Pétersbourg, 18 millions d'euros nets par saison pendant 4 ans, un choix financier bien plus que sportif et assumé comme tel par l'intéressé qui dit ne pas pouvoir refuser pour le futur de sa famille. Pour l'estime de ses supporters, par contre, c'est moins garanti. De même que pour sa place au sein des Diables, pas sûr que le sélectionneur fasse encore appel à lui, vu le niveau de sa nouvelle lointaine équipe. Entre-temps, il devient à 28 ans le 8e joueur le mieux payé au monde.
Et on continue avec le ballon rond, Anne Cantener. Votre personnalité africaine de la semaine est également un footballeur.
Le milieu de terrain algérien Riyad Mahrez vient d'être sacré meilleur joueur africain de l'année 2016 par la CAF, la Confédération africaine de football. Il y a 3 ans seulement, Riyad Mahrez jouait encore en Ligue 2 en France. Snobé par Marseille, il a atterri en Angleterre à Leicester, un petit club qui, à la surprise générale, a gagné la Première Ligue l'an dernier grâce notamment à une saison éblouissante de Riyad Mahrez. À 25 ans, le footballeur entre dans la légende de son pays. Il est le premier Algérien à remporter ce prix.
En Suisse, Vincent Bourquin, le sportif de la semaine, est un tennisman bien connu.
Oui, hein, c'est carrément la star du sport suisse, Roger Federer, qui a fêté en Australie lors de la Hopman Cup son grand retour après 6 mois d'absence pour blessure. Une blessure qui n'a pas contracté sur les cortes, mais en donnant le bain à ses enfants, ce qui le rend tellement plus humain. C'est aussi ce genre d'histoire qui contribue au mythe de celui qui est considéré comme le plus grand tennisman de tous les temps. À Perth, pour son premier entraînement, plus de 6000 personnes étaient présentes. À 35 ans, sa popularité est unique et mondiale. Ses fans se bousculent encore pour le voir, de peur qu'il prenne bientôt sa retraite, même si lui se dit requinqué et rajeuni.
Et on ne change pas une équipe qui gagne. En France également, l'homme de la semaine s'est fait remarquer par un exploit sportif. Robert Marchand, à 105 ans, il vient de battre dans sa catégorie le record de l'heure à vélo en parcourant 22,5 km. Robert Marchand, décidément increvable. Cet exploit ramène à une question que tout le monde se pose. Serons-nous bientôt tous des super centenaires? Pas sûr, car selon les spécialistes de neurophysiologie, Robert Marchand dispose d'un cœur équivalent à celui d'un individu de 50 ans. Il a surtout été gâté par la génétique. L'actualité francophone, on se rend au Canada où les conditions météo ont donné du fil à retordre à tout le pays, Dominique Arnoldi.
C'est un véritable cocktail météorologique qui s'est abattu sur le pays cette semaine. On a eu la neige, la pluie verglaçante, le grésil qui sont tombés autant sur l'est que sur l'ouest du Canada. Sur la côte atlantique, des vents violents ont causé de nombreuses pannes de courant. Des milliers de résidents ont été privés d'électricité. De puissantes vagues ont déferlé sur les côtes, causant des dommages à des résidences et à des structures municipales. On a vu des maisons mobiles tomber à la mer, des maisons inondées, des tronçons de route ont été sectionnés, créant des conditions routières lamentables. Et ça sans compter là, les nombreux vols qui ont été retardés en raison des intempéries. Et sur la côte ouest, où en décembre, plus de 27 cm de neige sont tombés sur Vancouver, qui joue normalement d'un climat doux et pluvieux en ce temps de l'année, eh bien des températures anormalement froides ont créé de véritables patinoires sur les rues secondaires et les trottoirs de la région vancouveroise, tandis que des autobus non équipés de pneus d'hiver étaient incapables de monter les rues abruptes et ont bloqué certaines artères de la ville. La ville de Vancouver, qui est peu habituée et mal équipée pour gérer ses excès climatiques, a dû procéder à des distributions gratuites de sel de déglaçage à ses résidents. Des Vancouverois qui ne sont pas encore au bout de leur peine, puisqu'une autre tempête de neige est prévue dans les prochains jours.
Vincent Bourquin, les Suisses, on le sait, votent très souvent. La prochaine fois, ce sera le 12 février. À peine les fêtes finies, une campagne de votation est lancée avec notamment un sujet très sensible, la naturalisation facilitée pour la troisième génération.
Obtenir le passeport suisse, hein, ce n'est pas aisé, l'automaticité n'existe pas. En 2004, les Suisses avaient refusé que les étrangers de la troisième génération, c'est-à-dire les petits-enfants des premiers migrants, obtiennent automatiquement la citoyenneté helvétique.
Le nouveau projet qui a été longuement débattu au Parlement reste très restrictif.
Tout d'abord, il ne faut pas avoir de casier judiciaire, être né en Suisse, avoir accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire ici, ne pas être âgé de plus de 25 ans, au moins l'un des parents devrait avoir vécu 10 ans sur le sol suisse et avoir lui aussi été à l'école ici. Et ce n'est pas fini, l'un des grands-parents devrait être né en Suisse ou avoir eu un permis de séjour. L'objectif de ce projet est d'harmoniser la procédure, car en Suisse, ce sont les cantons qui décident quels sont les critères et ça varie énormément. Les régions romandes, par exemple, naturalisent beaucoup plus facilement.
Et cette harmonisation ne fait pas l'unanimité.
Effectivement, l'UDC, la droite conservatrice, première force politique du pays, considère que la gauche, à l'origine de ce projet, veut brader la nationalité suisse. Ce parti insiste sur l'importance que les étrangers prouvent à la fois leur intégration et leur motivation réelle à devenir suisse. L'UDC va se lancer maintenant dans la bataille. Le résultat devrait être assez serré. 2 sondages ont été publiés hier. L'un annonce que cette mesure, qui pourrait concerner 25 000 personnes, serait largement acceptée. Et l'autre parle d'un score très serré.
L'amiante s'invite au cœur d'un nouveau procès en Belgique, Nathalie Devic.
Un procès en appel qui s'est ouvert mardi à Bruxelles autour d'une famille décimée, voisine d'une usine de matériaux de construction Eternit. Les parents et 2 des 5 enfants sont morts du cancer, cancer lié à l'amiante, détecté dans les bâtiments. Il y a 15 ans, pour éviter un procès, la société propose une transaction à la famille, 42 000 euros, en échange de son silence. Proposition refusée. 10 ans plus tard, le tribunal civil donne raison aux victimes. La responsabilité d'Eternit est engagée et la faute de ses dirigeants établis, c'est ce que rappelle l'avocat de la famille.
À partir de 65, on savait qu'on manipulait un poison mortel qui allait causer de nombreuses victimes mortelles.
Pourtant, les responsables n'en ont pas tenu compte. Pire, ils ont tenté d'occulter les dangers. Alors condamnés à payer 250 000 euros, cette fois de réparation, jugeant la somme trop élevée, ils espèrent aujourd'hui en appel s'en tirer à meilleur compte en minimisant les faits. Des faits prescrits, il n'y a donc selon eux même plus lieu de dédommager. Devant le palais de justice cette semaine, de nombreuses personnes scandalisées sont venues soutenir l'un des enfants survivants, Eric Jonker, qui poursuit le combat pour tous les autres.
Nous avons envie de faire bouger les politiques parce qu'il y a encore trop d'amiante dans les bâtiments scolaires, dans le bâti public et il faut absolument qu'on prenne conscience que l'amiante n'est pas un problème du passé.
La cour d'appel doit trancher dans 2 mois. Selon l'association belge des victimes de l'amiante, plus de 200 000 personnes dans le monde en meurent encore chaque année.
En France, la semaine a été marquée par le redémarrage sur les chapeaux de roue de la présidentielle, a commencé bien sûr par la primaire de la gauche, mardi à la même heure. Vincent Peillon, Manuel Valls ont décliné publiquement leur programme. Le premier joue clairement la carte européenne.
Non seulement on peut être de gauche et européen, mais on peut être de gauche dans le respect de ses valeurs. Et c'est quoi ? Très européen, internationaliste et se rappelant cette universalité du genre humain.
Manuel Valls, lui, a décidé de ne plus faire du Valls. L'ancien Premier ministre réformateur chasse désormais les voix de la gauche du parti.
Pour moi, la question n'est donc pas de savoir si la gauche peut gagner. La gauche doit gagner, car la France a besoin de progrès, de justice sociale. Elle a donc besoin de la gauche.
Mardi soir, c'est au tour de François Fillon, invité du 20h de TF1. Seul objectif, gommer son image ultralibérale et antisociale. Et pour cela, et c'est en soi une première en France pour un homme politique, il a invoqué sa chrétienté.
Je suis gaulliste et de surcroît, je suis chrétien. Ça veut dire que je ne prendrai jamais une décision qui sera contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne humaine, au respect de la solidarité.
Mercredi, place à Arnaud Montebourg, il a présenté son projet et il se veut désormais être le candidat du travail et des salaires.
Je suis le candidat du travail et de la feuille de paix.
Dans la foulée, c'est Marine Le Pen qui a présenté ses voeux à la presse. Un début de campagne visiblement très serein pour la présidente du Front National.
La campagne a été minutieusement préparée et nous sommes prêts, résolus, organisés. Mais au-delà de ma campagne, C'est mon quinquennat que j'ai préparé durant ces longs mois.
Une prochaine grande date, le 29 janvier, deuxième tour et résultat de la primaire de la gauche. On reste en France, Anne Cantonnerre, avec l'ouverture à Paris du premier procès dans l'affaire dite des biens mal acquis, celui du fils du président de Guinée équatoriale.
Théodorin Obiang-Nguema est jugé pour corruption et détournement de fonds publics. Ancien ministre, promu vice-président il y a quelques mois, lorsqu'il est à Paris, il dépense des mallettes d'argent liquide dans les boutiques de la très chic avenue Montaigne et loge dans un hôtel particulier où les robinets sont recouverts de feuilles d'or, les murs d'œuvres de maître et les places de parking de Bentley, Bugatti et autres voitures de luxe. Théodorin Obiang-Nguema n'était pas présent à la première audience et comme le réclamait son avocat, maître Emmanuel Marcini, le procès a été reporté.
Les conditions dans lesquelles ce procès devait s'ouvrir n'était pas satisfaisante pour la défense, mais également au regard de la Cour internationale de justice qui est saisie de violations du droit international occasionnées par cette procédure.
La procédure lancée auprès de la Cour de justice internationale pourra durer 2 ou 3 ans. Le tribunal a donc décidé de ne pas attendre la décision sur le fond, mais il a accordé plus de temps à la défense pour se préparer. Pas de quoi décourager Daniel Lebègue, président de l'ONG Transparency France, qui est à l'origine de la plainte.
Sérénité et détermination. On a fixé un cap il y a 10 ans, on le tient. Monsieur Obiang sera jugé. Je forme le vœu que Monsieur Obiang soit présent devant ce tribunal. C'est la moindre des choses.
Mais la réponse le 19 juin prochain, date de la prochaine audience.
C'était l'actualité francophone. Retrouvez-nous sur le site mediafrancophone.org.